Se mouvoir dans la cité, qui est aussi une autre forme de jouissance du monde, c'est en même temps avoir bien acquis les codes, par exemple, de déplacement sur les trottoirs pour ne pas entrer en collision avec tous les passants qui marchent devant vous, pour ne pas bousculer les personnes plus âgées, par exemple, ou les personnes handicapées qui n'ont pas le même rythme que vous. Donc c'est évidemment mettre en œuvre tout un tas d'implicites sociaux, en quelque sorte, une civilité en marche, en quelque sorte, qui souvent se heurte évidemment aux voitures qui sont dans une toute autre logique et très souvent dans l'incivilité à travers le fait qu'elles, surtout en France, c'est pas le cas au Canada ou dans bien d'autres pays, mais en tous les cas en France où un automobiliste accélérera au passage protégé plutôt que de vous laisser passer ou autre. Donc on est quand même à la fois dans la prudence et dans le respect d'un certain nombre de codes.
Il est sûr que la flânerie présente des aspects différents, obéit par conséquent peut-être à des qualités ou à des définitions, mais c'est pas tellement l'idée de définition que je retiendrai, à des esthétiques différentes.
J'arrive vite, je cours. J'arrive, je cours, je ne m'arrête pas de parler, loin de là, je suis là, j'arrive, je viens, je suis là, j'arrive même en courant. Une fois, parce que je n'étais pas dit que je devais rester autour de moi. Je dois parler, je dois marcher, je marche, je parle. Vous n'avez rien à dire, de toute façon, vous m'avez très bien dit.
Je le dis au commencement, parfois je le dis un peu plus tard, tu vois. Mais bon, je veux bien que les gens soient conscients, que les gens sachent absolument qu'est-ce que je veux faire. Donc, je pense que ça donne une grande liberté à les spectateurs, tu vois, de dire, bon, ça ne m'intéresse pas, je m'en vais. Mais de dire, bon, cette bonne femme, elle va parler, elle va marcher tout le temps comme elle est en train de faire maintenant. Je veux dire, j'ai compris la performance, l'idée, le concept, parce que c'est ce qui est important. En principe, c'est l'idée. Tu vois, je veux dire, pour moi, c'est une espèce de risque que je prends, que la salle se vide. Tu vois, en disant, ah, mais d'accord, c'est très bien, mais je m'en vais. Et ça, j'aime bien, tu vois, et qu'il reste.
Comme disait, je ne sais plus si c'était Stevenson, dès qu'on est plus de deux, ça devient un pique-nique. Bon, moi, je marche beaucoup avec ma compagne quand même. Mais c'est vrai que la marche vous ramène le monde à la proportion de votre corps, d'une certaine manière, puisque vous êtes dans un regard sur le paysage, dans une audition de tout l'univers sonore qui vous entoure. Vous êtes dans la gustation, parce qu'en même temps, vous pouvez manger les myrtilles ou les fraises sauvages ou vous arrêtez dans une ferme auberge, vous êtes dans la tactilité parce que vous touchez les feuilles, vous touchez les troncs d'arbres, vous baignez comme moi ça m'arrive très souvent quand je marche, et puis vous êtes dans l'odorat puisque marcher dans un certain nombre de lieux évidemment c'est être pénétré des odeurs. Donc on est à la fois dans un monde réduit au corps, mais de manière très heureuse puisque ça devient une sorte de porte étroite dans la complexité du monde. Mais c'est vrai que la marche vous ramène le monde à la proportion de votre corps d'une certaine manière.
Ça, c'est absolument vrai. Et en plus, tu fais une marche d'un monde à ta mesure. Tu mesures le monde d'une certaine façon. Et je marche beaucoup, beaucoup, surtout dans des villes que je ne connais pas. Mais mon grand plaisir, moi, je dis toujours, parce que je suis vieille déjà, et je dis à ton parfois quel horaire les jours que j'arrive en ville que je ne connais pas et que je ne puisse pas marcher, que je ne puisse pas la parcourir. J'ai énormément de performances où je l'appelle la série des parcours. Et j'adore parcourir les villes, surtout les villes que je ne connais pas. Mais ça m'intéresse tout. Si tu ne crois pas que ce n'est pas seulement les musées, les monuments et tout ça. Non, 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 la rue, la façon que les boutiques sont présentées, comment les gens s'habillent, comment ils s'assoient, les terrasses, tout ça, je veux dire. Et moi, ça me fascine.
Quand même, c'était de beaux magasins qui s'offraient une place dans les passages. Et par conséquent, on comprend bien que la vitrine est devenue un moyen, bien sûr, d'attirer, comme on sait bien, le chaland. Mais pas seulement, ça a été aussi un lieu d'un artifice particulier, d'un travail presque artistique, on pourrait presque dire cela. Et en tout cas, il me semble qu'il y a, que ça a à voir avec l'idée de nature morte, où il y a une sorte d'abondance de ce que l'on, des biens, en quelque sorte, qui sont mis à la disposition du consommateur, hein, dans cet excès un peu bourgeois de la chose que, bien sûr, Benjamin a bien perçu dans les passages. Quoi.
Pourquoi, comment, où et quand. Je veux dire, je fais différents rythmes, j'adore faire ça. Tu vois, je veux dire, de donner des rythmes différents. Parfois, j'ai dit seulement pourquoi. Et, je veux dire, et les rythmes de cette combinaison, je veux dire, de ces mots qui sont tellement significatifs, hein, je veux dire, pourquoi, comment, où et quand. C'est toute notre vie. Et dans ces pourquoi, dans ces quand, comment, etc. Et je trouve que c'est des questions très, très intéressantes. Et à la fois, c'est comme un poème sonore, je trouve ça fantastique. Il y a même des gens qui disent qu'il n'a rien à voir l'idée de l'effet de marché, l'effet de parler, tu vois. Mais c'est une des théories.
Alors toi, tu dis aussi, donc tu fais l'expérience en marchant, ouais, que selon, ouais, le rythme de marche, ah, voilà, la parole, ah, ouais, peut ou pas suivre.
Absolument, absolument. Par exemple, j'essaye de penser et de marcher vite, par exemple, parler vite et marcher lentement. Et marcher vite et parler lentement, et je te jure que c'est pas si évident que ça.
Et c'est vrai que quand j'ai écrit Éloge de la marche, plus que jamais, j'ai eu l'impression de faire une randonnée absolument prodigieuse avec Bachot, avec Soreau, avec Stevenson, avec Sansot, avec Lake for More, enfin tout d'innombrables auteurs comme ça, un peu comme si nous étions une bande d'amis et que nous nous demandions, où est-ce qu'on va manger tout à l'heure, l'un qui dirait, j'ai envie d'aller me baigner là-bas, ah, mais moi j'ai un souvenir d'un lac, tu connais le lac là-bas, etc. Mais au fait, où on va dormir ce soir, etc. Donc j'ai conçu ce livre un peu comme une grande conversation. Il n'est pas écrit sur le mode du dialogue, évidemment, mais en prenant comme ça une sorte d'emploi du temps d'une randonnée.
Il y a beaucoup de théories. Il y a des théories de pourquoi, il y a beaucoup de théories sur quand, il y a des théories comment, et il y a beaucoup de théories où. Dans toutes ces questions, la réponse, il y en a beaucoup de théories que j'ai lis et qui me passionnent, et que chaque fois que j'essaye ou que j'ai le temps, je vais aux bibliothèques pour voir s'il y a des choses nouvelles sur ce pourquoi, comment, où et quand.
Quand tu regardes un peu les débuts du cinéma, qu'on appelait cinématographe, comme tu sais, il y a d'abord ces fameux films des vues lumières qui montrent des sorties et des entrées. Sortie d'usine, c'est un des premiers films Lumière présentés, tu sais, en 1895. Et ce sont des gens qui sortent, qui marchent. On ne voit même pas quel est le lieu qu'ils quittent, ni l'activité qu'ils ont pu conduire dans l'usine, même si c'est l'usine Lumière dont on peut soupçonner en gros de quoi elle retourne, hein, quel genre d'activité elle propose. Mais on voit surtout des gens qui sortent. C'est tout. Un simple mouvement de marche. Et puis ensuite, il y a des entrées de train, comme on sait, de La Ciotat ou d'ailleurs, il y en a eu beaucoup, qui montraient la sortie des voyageurs aussi.
Il y a une relation totalement, je veux dire que moi, quand tu te promènes et tu penses très bien et tu peux discuter très bien et tout ça, mais quand tu fais l'expérience toi-même de mettre en relation, en contradiction, ton cerveau et tes jambes, ça veut dire que tu dis, je vais parler très vite, mais je vais marcher très lentement.
Les débuts du cinématographe viennent en partie, on va dire, de la chronophotographie.
C'est, à l'inverse, c'est vachement difficile de parler des choses un peu cohérentes. Je veux dire, pour faire des sons articulés, tu peux le faire et tout ça, mais par exemple, essaye de parler d'El Quijote, tu vois, par exemple, je te permets l'expérience. Non, par exemple, je décide maintenant de parler vite et de parler vite en marchant lentement, par exemple, je veux dire, et je voudrais dire quelque chose sur mon expérience dans les sujets, mais je dois parler très rapidement, tu vois, les idées, mais je veux dire, je dois
Et la chronophotographie, notamment maréienne, celle que Étienne Jules Marais a développée, on va dire, il n'a pas été le seul à faire des chronophotographies d'ailleurs, mais enfin lui particulièrement du côté français, ce qui va peut-être influencer les Lumières, a montré essentiellement des hommes qui marchent.
L'important c'est qu'on embarque dessus, on change le poids pour changer de pied, on fait deux petits sons. Et quand on entend un flap, c'est toujours et un, et deux, et trois. Le premier son c'est un et, et un, et deux, et trois, et quatre.
L'essentiel du mouvement capté, dont on a beaucoup dit que c'était une représentation du mouvement et même une décomposition plus exactement du mouvement en ces phases jusque-là non vues, ce sont pour l'essentiel des hommes ou des femmes qui marchent. Ce sont des êtres quelconques, ça c'est très important aussi dans la réflexion, et puis ce sont des êtres qui en gros se déplacent en faisant un pas, éventuellement ils sautent, ou ils trottent, ou ils courent, etc., etc. C'est très remarquable de voir que ce sont, pour une bonne partie des historiens du cinéma primitif, les débuts du cinéma. Alors, en général, pour dire cela, ils s'intéressent essentiellement à la dimension technique de l'appareillage convoqué par la chronophotographie, qui va être reconduit, amélioré, transformé pour devenir le cinématographe.
Et d'ailleurs, l'art le voyage, si je puis dire, est un art du dépaysement sensoriel. Quand vous vous baladez en Inde, en Chine, au Japon, etc., tout d'un coup, tous vos repères deviennent caduques. En Inde, les gens mangent avec leurs mains, les goûts sont radicalement différents des nôtres. Ce que vous sentez, ce que vous voyez, etc., n'a plus aucun rapport avec ce que vous voyez dans la vie quotidienne. Donc on peut toujours apprendre, et alors, évidemment on peut prendre des tas d'anecdotes de décalage culturel intense. Il y a cet exemple d'un ethnologue américain qui travaillait au Mexique autour du chamanisme et qui avait pris le même cactus San Pedro que la communauté amérindienne dans laquelle il était, et il croyait un peu naïvement qu'il allait pouvoir s'immerger dans une participation avec les Indiens en suivant l'action du chaman. Mais comme il dit, il voit le chaman qui s'agite et qui fait des grands mouvements dans l'espace, il voit toute la communauté amérindienne qui participe de façon très bouleversée au combat, et lui dit, je ne voyais rien qu'un gars qui s'agitait devant moi, etc. Évidemment, il n'était pas entré dans les arcanes du chamanisme, là où ces hommes et ces femmes de cette communauté amérindienne n'ignoraient rien de tous les gestes du chaman, et pour eux, chaque geste du chaman renvoyait à l'action d'un esprit invisible contre lequel le chaman se battait, etc. Ceci dit, à partir du moment où cet ethnologue va entrer dans l'initiation avec le chaman, il va peu à peu réussir à décoder lui aussi des gestes comme faisant référence à tout un univers invisible, etc.
Que depuis beaucoup de temps, ça, on a considéré que la marche stimule la pensée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de qui ont pensé sur ces problèmes. Et j'ai commencé à chercher, par exemple, tout le monde connaît les péripatéticiens.
Et puis alors, tu as relevé les rapports qu'il y a entre langage et rythme, le rythme de la marche. Est-ce que les phrases sont mieux proportionnées quand on marche, selon toi, ou est-ce que le fait d'être assis, par exemple, pourrait j'ai cette impression-là, que le fait d'être assis pourrait nous emmener à faire des phrases trop longues.
Trop longues, peut-être aussi mieux organisées.
Trop bien organisées.
Trop bien organisées. Trop théorique. Trop érudite. Mais peut-être c'est vrai, quand on marche, si tu veux... Mais parler, c'est une chose. Mais quand on pense, je veux dire, on pense mieux. Je veux dire que parler, peut-être quand on marche, en parlant, je veux dire, on s'exprime plutôt plus simplement, moins érudite.
La passante, par exemple, c'est d'abord un tableau d'une grande légèreté, ou d'une grande banalité, en tout cas. C'est le tableau quotidien de la ville... dans la deuxième moitié du 19e siècle.
Mais quand tu penses, comme la pensée n'a pas de limite, pour ainsi dire, tu vois, je pense qu'on pense très bien. Que je pense mieux en marchant qu'assise dans mon fauteuil. Tu vois, mais peut-être je parle mieux assise dans le fauteuil.
Ah oui.
Tu vois, je veux dire, la parole, c'est une chose, et la pensée, c'est une autre.
La rue assourdissante, la passante qui passe en soulevant sa jupe pour marcher sur le trottoir, enfin, ça pourrait être aussi insignifiant que n'importe quelle promenade, en définitive, assez quelconque. Et puis, tout à coup, parce que c'est le propre de la fantasmagorie et de la distraction, en tout cas, que Benjamin a salué chez Baudelaire, voilà que cette femme se transforme. Dans le poème, elle devient, avec sa jambe de statue, quelqu'un qui s'apparente soit aux beaux-arts traditionnels, soit à quelque chose qui se fige, qui va contre la logique de la banalité de la rue.
Et péripatéticien, c'est les premières qu'on a décidé. Apparemment, Aristote, c'est vrai qu'il donnait ses cours en marchant, parce que, bon, après, j'ai lu des autres choses qui disent que c'était pas vrai, que c'était simplement, il les donnait dans en promenade, mais ça ne veut pas dire qu'il se promenait, mais apparemment ça peut être vrai ou pas, mais il y a énormément de philosophes, par exemple, qui ont dit, dans des lettres, Kierkegaard, Rousseau, Nietzsche, Thoreau, Emerson, dans quantité de lettres, des textes, des choses, comment l'idée de Marcel est stimulée la pensée. Parce que c'est trop que ça, marchant. Oui, bien sûr, absolument, absolument. Mais c'est toujours, de toute façon, les marches militaires sont toujours un truc de pouvoir. Et la Marseillaise, tu t'imagines, le texte, c'est absolument horrible. Mais je les prends, parce que d'abord, déjà Victor Hugo, il disait l'humanité marche et s'illumine. C'est le cycle de lumière. Et après, je trouve que c'est comme exemple de... Je parle de marche militaire, je parle de comment on emploie l'idée de la marche et tout ça. C'est-à-dire, en plus, les gens marchons, ça veut dire en groupe, la marche, on y va. Tu vois, je trouve que c'est très beau comme exemple.
Lorsque... On salue, et ça a été immédiatement salué à la sortie du film, la fin des 400 coups, comme étant un grand moment de cinéma. On ne sait pas très bien ce qu'ont voulu dire exactement les commentateurs de l'époque, mais c'est certain que c'est un grand moment de cinéma, parce qu'on retrouve justement cette essence du cinéma, de la marche, du double développement de la marche par le travelling de la caméra qui est embarquée, en effet, aux côtés de Jean-Pierre Léo, et du mouvement même dans le champ, du petit Antoine s'échappant de la maison dite de correction ou de redressement, qui devait sûrement veiller à ce qu'il se tienne bien droit et bien immobile, et tout à coup le voilà qui s'élance et part en courant jusqu'à la fin du film. Donc on a bien là quelque chose d'un haut moment de cinéma, c'est juste, y compris parce que ça fait retour à la provenance du cinématographe. Mais en même temps, cette marche, elle est très compliquée parce qu'elle n'arrête pas de montrer le contraire d'une liberté ou d'une libération de l'enfant. Il fuit une maison d'emprisonnement, bien sûr, mais Truffaut a veillé à le faire constamment croiser les signes d'un autre enfermement. Et par exemple, il y a des barrières, on est sans doute en Normandie, donc il y a des vergers clos, des champs avec des vaches qui sont entourées de palissades. Enfin, on n'arrête pas de longer avec l'enfant et avec le travelling de la caméra des palissades, des grillages, au fond des lieux d'enfermement, quoi, même si on pourrait croire un court moment au niveau dramatique, c'est-à-dire narratif, que l'enfant s'est libéré.
Et une de mes angoisses, c'est « Mon Dieu, si un jour je ne peux pas marcher !» Tu vois, quelle horreur. Le monde, comme tu dis, le monde vraiment se rétrécira beaucoup, beaucoup pour moi.
Moi, par exemple, quand je me balade avec ma compagne, je suis toujours étonné des odeurs innombrables qu'elle sent dans une forêt, que moi, j'ai du mal à sentir, et que parfois, d'ailleurs, je ne sens pas. Et je sens bien qu'elle est émue par... Je vois bien qu'elle peut même aller retrouver les traces de l'odeur, et à ce moment-là, quand je suis près du chèvrefeuille encore, j'arrive à peu près à le sentir, mais il y a des tas d'effluves comme ça qui m'échappent complètement.
On est entré dans l'ère de la visibilité de l'homme ordinaire. l'homme ordinaire et non pas le héros, ni le personnage remarquable des tableaux, ni je ne sais quelle autre dimension peut-être de célébrité ou de notoriété qui peut être attachée à d'autres aspects de l'image mécanique lorsque celle-ci, par exemple, s'intéresse aux actualités, aux personnages du moment et montre donc les grands de ce monde. Hein.
Et peut-être Namjoon Paik, on n'a pas dû parler du Fluxus Tour, juste peut-être un mot là-dessus.
Ah oui, des Namjoon Paik, qui faisait les tours avec une casquette, qui c'est Fluxus Tour, et il faisait les tours de New York, comme les guides touristiques. Par exemple, il y a aussi beaucoup de pièces des gens qui ont fait un marchand. Par exemple, il y a aussi Yoko Ono qui faisait le City Piece. Il y a, voilà, comment ça s'appelle, Filio et la Galerie Légitime qu'il portait sur son chapeau et qu'il se promenait. Il y a, par exemple, des danseurs aussi.
Et puis, il y a le fameux débat sur le galop du cheval. Alors, plutôt enregistré de l'autre côté de l'Atlantique par Edouard Muybridge, qui lui, pour des raisons précises de mécénat, d'un mécène qui lui avait commandé ses travaux, s'est intéressé à la marche du cheval, au galop du cheval, au trot du cheval, et puis la découverte qui n'a cessé de faire commentaire, qu'à un moment donné, dans son galop, le cheval a les quatre pieds décollés de terre, quoi. Enfin, bon, des choses qui ont intéressé les peintres, les sculpteurs, etc.
Alors, je ne sais pas où on va, du coup, parce que ça pose la question de la destination.
Non, pas pour moi. Je veux dire, il n'y a aucun problème. On peut le faire à l'intérieur, on peut le faire à l'extérieur. À l'intérieur, c'est mieux, je pense, parce qu'à l'extérieur, peut-être, il y a les bruits de la rue. Bon, je ne sais pas si ça rentre dans tes... Mais on peut marcher comme ça. La maison n'est pas très grande, mais quand même, elle est assez... On peut marcher.
Hein, il y a de quoi marcher.
Oui, bon.
Alors tu dis qu'il y a beaucoup de théories. Ça veut dire justement qu'on aborde les théories toujours en marchant. Ça suppose qu'il y a un parcours entre les théories puisqu'il y en a beaucoup. C'est-à-dire que tu poses il y en a beaucoup en point de départ.
Oui, j'ai passé ça en point de départ. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, j'ai trouvé la première, ça m'arrangeait tellement bien la théorie qu'ils disent que l'homme marche parce qu'il s'est mis debout. Pardon, qu'il parle parce qu'il s'est mis debout. J'ai dit, mais c'est idéal, je veux dire. Et j'ai commencé à regarder, j'ai trouvé cette théorie beaucoup plus ou moins développée pour beaucoup de gens. Après, malheureusement, j'ai trouvé des autres théories qui contradisent complètement l'idée des...
Alors, à l'époque de ma vie, je me suis beaucoup intéressée pourquoi l'homme parle. Simplement, pourquoi c'est des primates supérieurs l'unique qui arrivait à émettre des sons articulés. Alors, j'ai commencé à lire des choses, j'ai commencé à lire une chose, autre chose, autre chose, et curieusement, presque toujours, j'ai trouvé qu'il y avait une relation dans beaucoup de théories entre la marche et la parole. Ça veut dire que l'homme parle parce qu'il s'est mis debout, parce qu'il est bipède. Ça veut dire, à l'époque, il marchait comme ça, à quatre pattes, hein, comme je marche maintenant. Et après, il s'est mis debout et il a marché debout.
C'est-à-dire que la somatisation est en même temps une sémantisation. Le corps parlerait en quelque sorte à la place de la personne. Alors évidemment, sur le plan médical, c'est extrêmement difficile à démontrer. Donc, en revanche, c'est très souvent la théorie subjective à travers lesquelles les acteurs vont vivre leur rapport à la maladie.
Si on peut admettre qu'à un moment donné a triomphé, un peu suivant l'analyse de Jacques Rancière que je simplifie en ne retenant que ça, mais a triomphé avec l'ère de la photographie puis du cinématographe tel que on l'a connu quand même pendant un petit siècle quand même tout de même, hein, c'est pas une représentation humaine de l'homme ordinaire qui s'est imposée à nous à ce moment-là, sous des traits que ni la peinture, ni la sculpture, etc., etc., n'avaient pu envisager.
Ça leur permet aussi de combattre la maladie, parce que si vous considérez que la pathologie que vous avez est liée au fait que vous avez gâché votre vie pendant un moment, ben, finalement la maladie est une manière de le langage du corps vous dit reprends-toi en main et désormais vis ta vie de manière plus heureuse, satisfais davantage tes jouissances personnelles, etc. C'était d'ailleurs ce qui était défendu dans le livre Mars de Fritz Zorn, un grand classique en la matière dans les années 80. le cancer comme étant issu d'une histoire personnelle tragique, et puis là, la leçon en quelque sorte que donne la maladie grave pour vivre un peu cette espèce de dimension initiatique de la maladie grave, donc pour se reprendre en main et renaître enfin sous une forme propice.
Mais ça veut dire que très vite on comprend que la langue ça peut être un élément de pouvoir. Même quand encore il était des primates, il est encore peut-être 100% bipède. Hein.
Alors, on voit bien une silhouette d'homme vêtu toujours de la même façon, avec une sorte de grand manteau dans lequel il est bien enserré, bien fermé, avec une grosse ceinture, et il marche, il arpente des lieux qui d'ailleurs eux-mêmes deviennent de plus en plus abstraits. On pense à la Pointe Courte, hein, vraiment. Du moins du côté de la marche des deux personnages fictionnels qui s'opposent à la marche concrète des pêcheurs. Et on est véritablement dans un espace qui se défait, quoi. Mais en même temps que se défait ce qu'on pourrait appeler la représentation humaine. Et je ne suis pas sûre que du coup, ce que permettent en tout cas les nouvelles technologies ne soit pas une façon d'achever le mouvement, hein, puisque ces figures humaines vont être surhumaines, enfin, elles vont accuser leur artificialité, hein, elles vont peut-être même tellement révéler qu'elles sont le produit justement de quelques technologies, ce qui n'était pas le cas du cinématographe, enfin, ou du cinéma plus traditionnel en tout cas, qui au contraire faisait oublier en quelque sorte que c'était des images mécanisées comme de la reproductibilité mécanique, comme disait Benjamin. Et qui, c'est curieux, comme il y a comme un oxymore hein, dans la pensée de Benjamin qui met en avant le côté mécanique, technique de l'image obtenue, mais pas des sujets. On pourrait dire que les contenus, c'est au contraire le triomphe de l'homme ordinaire. Hein, il y a quelque chose d'intéressant dans cette rencontre un peu contradictoire, on va dire, des termes. Et en revanche, lorsqu'on accède à ce cinéma en 3D ou bien à l'image numérique ou à je ne sais quoi qui caractérise le devenir de l'image en mouvement, peut-être qu'on accuse quelque chose qui est le prolongement de cette méditation. Ce sont pas des... Quand on voit, en tout cas, les personnages, quand on a parlé, vous savez, de comment on dit, juste le terme m'échappait, dans Matrix, je cherche le terme qui a prévalu, où il est question de bolette, enfin, l'image qui va à la vitesse d'une balle. J'ai oublié le terme maintenant que je voudrais le retrouver, où les hommes peuvent traverser à l'horizontale l'espace comme s'ils étaient de véritables projectiles. Bon, on voit bien que tout cela est parfaitement artificiel, enfin.
Dès qu'il y a une opinion, il y a l'autre qui dit le contraire. Alors je pourrais parler pendant cette quart d'heure qui doit me rester sur les différentes théories. Pourquoi l'eau s'appelle vous? Pourquoi ça? L'histoire de la respiration. C'est parce que je ne suis pas trop sportive. Et voilà. Mais bon, ça,
Même j'ai essayé ici à la maison, parce que moi, j'ai essayé ici en faisant cet exercice pour ma performance dans cette semaine, exactement là. Et parfois, j'arrive au bout de, je ne sais pas combien de fois, tu vois, j'arrive, mais parce que j'ai déjà plus ou moins pensé qu'est-ce que j'allais dire, tu vois, mais quand même. C'est très difficile, c'est contradictoire. Donc, je crois qu'effectivement, il y a une relation entre le fait de marcher et le fait de penser. Parce que c'est tellement conditionné la vitesse de l'une ou de l'autre, de ta pensée et avec le marche. Je veux dire, marcher et penser à un rythme normal, ça c'est très stimulant et c'est très facile. Mais mettre en contradiction ton cerveau et tes jambes, je dis que l'une aille vite et l'autre lentement, c'est pas si évident que ça.
Cette artificialité est intéressante parce qu'à mon avis, elle montre que justement, ce qui est perdu, c'est le visage humain. Or déjà, Kerol, film de Beckett, avait montré qu'il y avait quelques impossibilités peut-être, ou difficultés à présenter l'être humain simplement de face, quoi.
Et alors, tu considères que, évidemment, on pense mieux en marchant?
Ah oui. Bah, simple. Moi, sans jamais, j'ai pas seulement moi, hein. Je cite dans ma conférence
C'est vraiment ce rapport à rendre visible l'homme ordinaire en ses gestes ordinaires, en outre.
Le chemin se fait en marchant. Un poème d'Antonio Machado, Caminante no hay camino, ça c'est camino al andar. Et que depuis que je suis jeune, j'ai trouvé ça merveilleux. C'est l'idée qu'il n'y a rien devant, que c'est toi qui ouvres le chemin, c'est toi qui fais le chemin, et que c'est en marchant que tu fais le chemin. C'est en faisant la performance qu'on fait la performance. Ça semble redondant, mais c'est comme ça. Il n'y a pas une autre façon pour moi.